Patrick Burinsternas.
Bonsoir.
Merci d'être venu.
Merci de m'accueillir.
Alors, votre dernier livre s'appelle « Un alchimiste raconte » et c'est édité chez Masso Éditions. C'est un livre qui parle d'alchimie, mais c'est sidérant parce qu'en 2017, vous n'êtes pas très nombreux, si ?
Ah, on ne sait pas, il y a peut-être plein de gens qui font de l'alchimie comme M. Jourdain, sans le savoir.
Sans le savoir.
On va dire qu'il y a quelques alchimistes déclarés et sans doute quelques-uns plus discrets.
Alors, dans ce livre-là, vous nous parlez de la pierre philosophale, de métaux, de feu, de lumière, mais aussi d'émotions, de peurs, d'ondes, ça on connaît bien les ondes à la radio, de sagesse ordinaire qui passe par les méandres de l'extraordinaire, y a-t-il écrit sur le dos de votre livre. Et vous organisez aussi, Patrick Burinsternas, des conférences, vous organisez des voyages sur des lieux extraordinaires. Alors j'ai envie de vous demander ce que c'est qu'un alchimiste.
C'est juste quelqu'un qui cherche le bonheur, finalement. Vous savez, on utilise beaucoup la langue des oiseaux, et le bonheur, c'est la bonne heure. Donc, c'est la quête du moment présent. D'ailleurs, quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est toujours un présent. Jamais un passé ni un futur. Et c'est peut-être cette qualité d'observation. On parle du premier travail qui est la contemplation. Et la contemplation, c'est l'ouverture du temple. C'est donc s'asseoir quelque part, ne rien faire, et juste percevoir. Perce pour voir. Percer quoi pour voir quoi, finalement.
Ça, c'est très amusant. Vous faites ça tout au long de votre livre. Hein, comme ça, de hop, 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 de décortiquer les mots. Les, on dirait une espèce de Rubik's Cube de mots. Vous le tournez dans l'autre sens et puis il apparaît quelque chose d'inattendu, de nouveau.
C'est ça, c'est peut-être ça l'alchimie, c'est cette capacité de voir ce qu'on a sous les pieds, ce qu'on a autour de nous, et de découvrir, de dévoiler littéralement les choses. C'est pas que les choses ne sont pas là, j'ai souvent des gens qui me disent « j'ai pas vu mes enfants grandir ». Et je leur dis « mais il fallait regarder ». Et le reste de la nature, c'est la même chose. Et l'alchimiste, on est un peu les philosophes de la nature, c'est qu'on n'invente rien, mais on dévoile ce qui est.
Un petit peu comme les étoiles, Patrick Burinsternas, qui sont dans le ciel dans la journée, qu'on ne voit pas, on ne les voit que la nuit.
Absolument. Et la quête de l'alchimie, c'est sans doute ça. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas la pierre philosophale, il la trouve. Et je pense qu'elle est dès le début quelque part, mais on ne la voit pas. Et peut-être que toute la quête est cette capacité de se déceler et d'être capable de voir les choses.
Donc c'est ouvrir les yeux.
Oui.
Et les oreilles, parce que vous venez de donner déjà plusieurs exemples de mots. Vous avez dit, Patrick Burinsternas, la langue des oiseaux.
Oui, tout à fait. Parce que c'est une langue très volatile, très subtile. On dit en alchimie, on cherche que l'esprit descende dans la matière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille dans un laboratoire, moitié labor et moitié oratoire. Moitié dans la matière et moitié dans l'esprit. Et donc ce volatile qui se fixe, cet oiseau qui se pose, cet oiseau scellé, on entend bien le sel, et ça va nous rappeler une comptine. Vous savez, quand on était petit, on disait qu'il fallait courir après les oiseaux pour leur mettre du sel sur la queue.
Je me souviens de ça, que ça les arrêtait.
Alors la question, c'est comment arrêter un oiseau en lui mettant du sel sur la queue? Il faut en mettre beaucoup quand même. Hein.
Ouais.
Sauf si le sel fixe le volatile. Et là, finalement, c'est un mode d'emploi. On disait, si tu veux trouver l'esprit, trouve quelque chose dans lequel il va pouvoir se poser. Et ce qui veut dire que des comptines qu'on chante ou qu'on récite comme ça et qu'on transmet, ça ne veut pas dire que ça tombe dans la bonne oreille, mais ça veut dire que les enfants les gardent, ils seront grands eux-mêmes, ils transmettront à leur tour, ainsi de suite. Et peut-être qu'à quelques générations de ça, ça tombera dans la bonne oreille. Et on pourra effectivement, non seulement écouter, mais entendre.
Pas mal. Vous savez, Patrick Burinsternas, le sel qui fixe, quand on teint un tissu pour le fixer, on met du sel. Avant d'être alchimiste, vous étiez, vous l'êtes peut-être toujours d'ailleurs, physicien?
Non, je ne suis plus, non. Oui, je me suis intéressé à la matière, mais d'une manière carrée. Et puis, je vais dire, je suis peut-être passé du carré au rond, c'est-à-dire une manière de sortir un petit peu d'une pièce. J'ai l'impression que la vie peut être de deux manières. C'est un peu comme si on était enfermé quelque part, et soit on améliore son incarcération, soit on cherche la sortie. Dans un premier temps, on peut mettre effectivement du papier au mur, une belle moquette, mais c'est pas pour ça qu'on va sortir de la prison, on va rester dans ses règles. Et peut-être que cette idée de transgresser, déjà il faut savoir qu'il y a une porte, ensuite il faut se retourner vers la porte, et enfin il faut voir qu'il y a de la lumière sous la porte.
Et savoir qu'elle est ouverte.
Alors elle est ouverte, on ne le sait pas au début. Bien souvent on passe sa vie à pousser une porte alors qu'il suffit de la tirer. Donc on a aussi cette possibilité. Voilà. Je pense qu'on augmente les possibles et on diminue les contraintes. D'ailleurs, c'est drôle, regardez dans notre vie aujourd'hui que vous proposent les agences de voyage, les évasions. Donc si on vous propose de l'évasion, c'est que vous êtes enfermé quelque part. Et on peut dire que le premier travail, c'est que l'homme libre sait qu'il a des chaînes. Et peut-être que l'alchimie se déchaîne à un moment.
Alors nous allons évoquer avec vous, Patrick Burenstenas, tout au long de cette heure, la lumière, vous l'avez évoqué, la beauté du monde, vous en parlez beaucoup dans votre livre. Nous sommes avec vous, Patrick Burenstenas, pour votre livre « Un alchimiste raconte » édité chez Massot. Et je vous propose d'écouter la voix de Marguerite Yourcenar. Elle parle du héros de son roman « L'œuvre noire », Zénon. Zénon est philosophe, médecin, chirurgien et alchimiste.
Ce personnage de Zénon est d'une très grande honnêteté intellectuelle.
C'est probablement ce que j'ai tâché de souligner le plus, ce que j'ai voulu montrer en lui. Un esprit ouvert, enfin. Oui. Un homme sans préjugés ou qui tâche de se débarrasser des préjugés. Et c'est ce, en effet les alchimistes qui employaient le mot « œuvre noire » pour indiquer cette première phase de l'opération en termes philosophiques. Et parce qu'en termes purement chimiques et métallurgiques, ça signifiait autre chose. Ça signifiait techniquement la dissociation des substances. Mais en termes allégoriques, alors il l'employait pour la dissolution des préjugés. Et il disait que c'était là la partie de beaucoup la plus difficile du travail, et que quand on était arrivé là, tout le reste n'était qu'un jeu d'enfant.
C'était Marguerite Yourcenar au micro de France Culture. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes alchimiste, Patrick Burenstenas?
Oui, je ne vais pas dire, j'aurais pas dit mieux. Quelle auguste référence. Penser que finalement l'alchimie est capable de tout. D'ailleurs, on met au fronton de son laboratoire, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? C'est la prison dont on parlait tout à l'heure, le carcan de préjugés, d'idées reçues, d'interdits. Et l'idée, c'est vraiment de dire tout est possible. On ne demande pas de croire en tout, on demande juste d'être objectif. Et à partir de ce moment-là, l'univers s'ouvre à nous, et c'est vraiment ce qu'on cherche. Et cette œuvre noire, justement, qui est la décomposition, aujourd'hui, le terme est mal utilisé parce qu'on parlerait de corruption. Mais corruption, c'est le corps rompu. Et là, l'idée pour séparer le subtil de l'épais, avant, il faut cette séparation, il faut cette dissolution. D'ailleurs, quand on a un problème, on cherche une solution, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on a cette opposition avec quelque chose de dense, qui est lourd, quand on a un problème, c'est grave.
On est plombé.
Exactement, on a cette notion de lourdeur. Et la question, c'est comment on va faire des trous dans la matière pour pouvoir la lumière qui est derrière. Et faire des trous, c'est oxyder. Et oxyder, c'est oxy. Et oxy, c'est être mort. Donc c'est cette mort des apparences, et c'est exactement ce qu'elle est en train de dire, c'est si vous tuez les apparences, si vous faites des trous dans vos égos, vous êtes un pèlerin. Et le pèlerin, c'est celui qui se pèle. Et à force de retirer ses peaux et de se pêler, on va finir par voir à travers.
D'ailleurs, vous racontez, Patrick Burenstenas, que le roi de France, dans la cérémonie qu'il vit pour devenir roi, quand il est sacré, il doit enlever plusieurs manteaux, plusieurs peaux.
C'est ça, et c'est des couleurs différentes, un peu comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Et la dernière va être blanche. C'est à chaque fois, chaque couleur va représenter une épreuve.
Alors qu'il y a quoi comme couleur?
Alors on a les couleurs, ça peut être amusant de faire le lien avec les nains de Blanche-Neige, puisque évidemment les contes de fées vont nous donner les mêmes clés. Et les nains, c'est des gnomes, de gnose, la connaissance. Et on parle en alchimie du vitriol, qui est l'acrostiche du visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre occulte. Et leur métier, c'est bien de creuser l'intérieur de la terre pour trouver des pierres précieuses.
Ah oui, c'est leur donc, job. On revient du boulot, ils reviennent de la mine avec leur pioche sur le
dos. Absolument. Et donc, on va avoir des couleurs et chaque couleur va dépendre d'une épreuve. Le violet, le mauvais côté, c'est la peur. Et le bon côté, c'est la spiritualité et l'ouverture d'esprit. Et c'est pour ça que dans notre culture, le violet est la couleur de la spiritualité.
Ah, l'évêque est en violet.
Absolument. Il portait une améthyste qui lui permettait justement d'être intercesseur entre le visible et l'invisible. Après, on a la couleur orange. L'orange, c'est l'écoute. Orange, celui qui a la lumière à l'intérieur de soi. Cette couleur orange représentera toujours le messager des dieux. Donc, l'épreuve, c'est apprendre à écouter sans entendre que soi.
Orange, comme Rochefort en terre.
Absolument.
En ange, en moi, en
plus, Rochefort en terre, il y a aussi des clés très intéressantes.
Ah bon?
Un alchimiste a vécu là-bas.
Ah, je savais pas, rigolo.
Voilà. Et donc, on va avoir ces couleurs qu'on trouve symboliquement partout, soit à travers les pierres, soit à travers les peintures, soit à travers les différentes œuvres. Et donc, ce roi avait ses chasubles, et à chaque fois, on lui demandait de passer à travers. Donc, la première dépasse la peur. La deuxième apprend à écouter. La troisième, le vert, c'est apprendre à écouter l'autre. C'est le rapport à l'autre. La couleur suivante, le jaune, c'est recevoir la lumière en étant bon, altruiste. C'est à la fois le monde du maître et du gourou, au sens péjoratif. Le maître éclaire, le gourou brille. C'est pas du tout la même chose. Pour briller, il faut être bien poli et on reflète le regard des autres. Alors que pour éclairer, on doit être transparent. Et celui qui est transparent, c'est celui qui traverse les apparences. Évidemment, plus il va éclairer, mais on va le voir. Et il peut dire, c'est moi qui l'ai fait. Et là, l'ego revient, il remet une couche, et il éclaire plus, il brille. L'épreuve suivante, c'est la rouge. La couleur rouge, c'est dépasser la violence et la colère pour trouver la force de construire. L'épreuve suivante, c'est la bleue. C'est recevoir la puissance, qui est une énergie indifférenciée, sans succomber au pouvoir. Et la dernière épreuve, c'est le noir, c'est rassembler ce qui est épars, sans succomber au chaos. Et quand Walt Disney donne une caractéristique aux nains, ce que les frères Grimm ne font pas, c'est-à-dire que c'est eux qui font à l'origine les contes, Walt Disney dit, moi je vais donner des caractéristiques pour bien raconter ça. Et chaque nain va correspondre à ça. Vous avez Simplet, qui est au début, lui doit déplacer la peur. Vous avez Dormeur, celui qui rêve tout le temps, le messager des dieux. Vous avez Timide, celui qui a un problème avec les autres, qui doit le régler. Vous avez Prof, celui qui transmet. Vous avez Joyeux, alors lui c'est un peu plus délicat, parce que Joyeux il est jovial, jovial il est jovien c'est Jupiter. Et Jupiter c'est l'étain, c'est la foudre, donc c'est la puissance. Et enfin vous avez Grincheux qui est saturnien. Les sept nains nous donnent les sept clés pour trouver les pierres cachées à l'intérieur de la mine.
Le chiffre 7, il vous plaît bien, Patrick Burenstenas, en tant qu'alchimiste ?
Absolument, mais pas seulement à moi. Dans toutes les cultures, on va trouver ce chiffre 7, et même dans la matière. Tous les minéraux qui sont sur Terre cristallisent selon 7 modes différents.
Ah ouais ?
C'est pas seulement une valeur métaphysique, c'est aussi une valeur physique.
Bah vous êtes physicien, vous, à la base.
À l'origine, évidemment, ça m'a donné des clés de compréhension du monde. Ça a été beaucoup plus loin pour moi dans les explications. Justement dans les contes de fées, justement dans ce qu'il y a autour de nous, et toute culture confondue. Par exemple, les sept dieux de la sagesse, c'est japonais. Mmh. En Inde, on parle du bodhisattva. Quand on se présente devant le bodhisattva pour savoir si on est rectifié, justement, il a son vajra qui représente la foudre, et il fait passer la foudre à travers nous. Voilà, soit on ne fait pas résistance, soit on fait résistance et on se casse en 7 morceaux. Donc, toute culture confondue, on va retrouver ce 7, qui sont les 7 étapes entre la matière et la lumière. Les voiles d'Isis, 7 voiles d'Isis, 7 barreaux à l'échelle de Jacob. Et on pourrait comme ça multiplier. Regardez, on a parlé de Blanche-Neige, mais pensez aux petits poussets, ils sont 7.
Ah oui, c'est juste.
Et on va trouver ça absolument partout, donc il y a forcément un point commun.
Walt Disney aurait été...
Il n'est pas forcément alchimiste, mais c'est un initié, ça c'est sûr et certain. Et il a envie de mettre à l'intérieur de ses contes, qu'il n'a pas écrit, hein. D'ailleurs les frères Grimm non plus.
Non, hein. Ils les ont récoltés.
On les a collationnés, et des fois très loin. Par exemple, Cendrillon, c'est un conte chinois.
Ah bon ?
Mais oui, c'est pour ça qu'on a l'histoire du petit pied. Mais donc, ça, c'est un cadran de beauté chinois.
Ah bien sûr, dans la chaussure de fer.
Et évidemment. Et donc, on va retrouver ça. Perrault a édulcoré beaucoup, parce que ce n'était pas lisible à la cour. Quand vous lisez les contes dans leur original, ce n'est pas du tout pour les enfants. C'est plein de viols, de meurtres, de découpages divers et multiples, d'inceste.
D'inceste,
oui. On ne peut pas raconter ça, quoi. Et Walt Disney va édulcorer parce que c'est avant tout pour les enfants, mais il va mettre des indices un peu partout. Par exemple, les trois couleurs. On a parlé de l'œuvre noire, mais il y a l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. L'œuvre noire, c'est la décomposition de la matière. L'œuvre blanc, c'est la recomposition de la matière et son alignement. Donc ça devient blanc, la licorne liée par la corne. Et ensuite, la vraie lumière passe dedans et ça devient rouge. Donc noir, blanc, rouge. Bah, regardez les couleurs de Mickey. Eh bien, il est noir, blanc, rouge.
Ah oui.
Voilà. Donc, il avait une idée derrière la tête.
La licorne, ça existe ?
Ah, c'est une bonne question. On dit qu'elle n'est pas arrivée à temps à l'arche de Noé et qu'elle est restée sur le bord pendant que l'arche partait et qu'il n'y a plus de licorne aujourd'hui. Mmh. Vous savez, peut-être que la réalité, c'est une folie qu'on partage. Et si on est tous suffisamment persuadés de quelque chose, ça devient vrai.
Enfin, j'étais autorisé à pénétrer dans ce lieu secret, le laboratoire de l'alchimiste. Je découvris une petite pièce au centre de laquelle se trouvait un simple four. L'atmosphère qui y régnait me surprit. La chaleur du four, les odeurs de soufre, le bruit du minerai qu'on broie. Je regardais Roger mélanger les sels minéraux, peser le minerai, mixer les fondants, et je me demandais ce qui pouvait conduire un homme apparemment raisonnable à répéter ses gestes encore et encore depuis plus de 20 ans.
C'était extrait de Faux pas rêver qui a été diffusé sur... France 3 en 1993. Patrick Burenstenas, vous êtes alchimiste, vous venez d'écrire Un alchimiste se raconte, édité chez Massot Éditions. Est-ce que cette description du laboratoire de l'alchimiste vous paraît raisonnable ?
Est-ce qu'un alchimiste est raisonnable ?
En tout cas, il paraît raisonnable, dit le journaliste.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une méprise à l'origine, c'est qu'on imagine que l'alchimie est une proto-chimie.
Ça veut dire quoi, une protochimie?
C'est-à-dire qu'avant, c'est une chimie antique, quelque chose. En gros, ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Ils ont fait des expériences par hasard et ils sont tombés sur des trucs. Sauf que ce n'est pas la même motivation. Les alchimistes ne cherchent pas la matière. Ils cherchent une pierre philosophale. Donc, c'est quelque chose de philosophal et pas de matériel. Par conséquent, ils trouvent de la matière. Par exemple, ils ont besoin de maintenir à des très hautes températures, et donc on a tout essayé. C'est d'ailleurs pour ça que les alchimistes chinois essayent toutes sortes de terres, et un jour, par hasard, ils tombent sur du kaolin et ils viennent d'inventer la porcelaine. Mais ils ne cherchaient pas la porcelaine. Ils cherchaient quelque chose d'autre, alors que les chimistes cherchent des produits.
C'est la sérendipité. Je trouve ce que je ne cherche pas.
C'est exactement ça, parce que si on sait ce qu'on cherche, au mieux on trouvera ce qu'on sait. Et là, on est au début dans le connu, et à un moment, il se passe quelque chose, on bascule dans un inconnu, nos mains courent plus vite que notre tête. Alors pour moi, le laboratoire, c'est un lieu où il peut se passer des choses extraordinaires. Si on utilise des outils ordinaires, on trouvera des choses ordinaires. Pour trouver de l'extraordinaire, il faut utiliser des outils non ordinaires.
Donc ce n'est pas un laboratoire de chimiste.
Absolument pas.
C'est un laboratoire d'alchimie. Absolument. Où il y a de l'extraordinaire.
Absolument, dont l'expérimentateur. Et on peut dire, pour moi, la différence entre le chimiste et l'alchimiste, c'est qu'en alchimie, l'expérimentateur a une place dans l'expérience. L'alchimie ressemble plus à de la cuisine. Quand les deux cuisiniers qui ont la même formation, qui ont les mêmes produits, eh bien, ils vont faire deux plats différents.
Eh oui, pourquoi?
Et la question, on va dire pourquoi. Et on va dire, ah, il y en a un, il a fait un truc extraordinaire, puis il a un espèce de impalpable. C'est ça, l'alchimie. C'est la quête de cet impalpable. Même si pour ça, il faut partir de ce qu'on est, c'est-à-dire de la matière, et utiliser effectivement ce qu'on a sous la main. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment, on ne va pas déborder ça. Parce que le risque, c'est d'être piégé dans cette matière et de jamais en sortir. Et on sera toujours plus mauvais qu'un chimiste. Parce qu'il aura une connaissance de la matière bien plus grande qu'on n'aura jamais. Et c'est pour ça que l'alchimie ne s'appelle pas la grande technique, mais le grand art.
Ah oui.
Et que tous les arts tournent autour de l'alchimie. Et on va avoir ces clés, justement.
Vous dites, Patrick Burin-Stenaz, que finalement, cette recherche de l'or à partir du plomb, c'est à peu près la seule chose que nous savons, nous, profanes, sur l'alchimie, c'est pas ça du tout.
Oui et non. C'est-à-dire qu'il faut s'entendre sur le terme or. Le terme or, la racine, c'est aor, un mot hébreu qui veut dire lumière.
Ah.
C'est ce qui a donné oratoire, par exemple. Donc la clé, c'est de trouver la lumière.
D'accord.
Évidemment, le profane imagine que l'alchimie ne peut que répondre au grand mystère de l'humanité. C'est « je vais mourir », c'est « j'ai besoin d'être riche », c'est « on m'aime pas », c'est « je vais être malade », c'est « je vais souffrir ».
Ce sont nos peurs à tous.
Absolument. Et on peut dire qu'on cultive l'alchimie, en tout cas l'imagerie d'Épinal, c'est comment résoudre ces peurs. Alors que ce n'est pas du tout ça. Quand on dit en alchimie « purifier la matière », c'est retirer des ombres. Tout à l'heure, on en a parlé pour l'homme, mais c'est vrai pour la matière. Et c'est pour ça qu'on parle des sept métaux, le plomb, l'étain, le fer, le mercure, le cuivre, l'argent et l'or. Et pour l'alchimie, c'est le même, à des états de maturation différents. C'est comme s'ils avaient des ombres, ils avaient des couches. Et à chaque fois qu'on purifie la matière, on retire une de ces ombres. Et on peut dire que le plomb a sept ombres, mais que l'étain en a que six. Et que l'or n'a qu'une seule ombre. Donc on pourrait imaginer que la transmutation, et vous remarquerez que les alchimistes ne transforment pas, ils transmutent. Transformer, c'est prendre une forme pour faire une autre forme. Transmuter, c'est prendre une forme pour la faire disparaître. Et justement, en faire de la lumière. Et ça va se faire progressivement. Alors c'est sûr que le métal le plus proche de la lumière, c'est l'or, puisqu'il ne reste plus qu'une seule ombre. Et d'ailleurs, on dirait qu'il est précieux, près des cieux, ce métal. Et il suffira de retirer la dernière couche pour que le plomb se transmute en lumière. Et c'est le vrai but de l'alchimiste. C'est de faire disparaître l'univers, finalement. Puisque au début, on peut dire s'il y a eu un début, tout était un, puis on l'a fractionné. Et le but du jeu, c'est retrouver cette unité. D'ailleurs, le bonheur, c'est l'unité. Vous êtes dans un lieu, tout est à sa place, vous aussi, mais vous ne savez pas pourquoi. Et si vous vous posez la question de savoir pourquoi, vous êtes bien, vous ne l'êtes plus. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser votre mental, qui est un excellent outil, mais il est chronologique. Il utilise la logique du temps. Et nous, on cherche l'éternité. On ne peut donc pas trouver l'éternité en suivant la logique mentale. Donc il va se passer autre chose, qui va nous mettre dans un état, qui va être au-delà de, quand on arrive dans ce monde, on apparaît, quand on quitte ce monde, on disparaît, donc on fait paraître. Et la clé, c'est, on est quand? Peut-être que la clé, c'est la clé de l'être, mais aussi dans la matière, et qu'à force de retirer ses ombres, la distance entre moi et la lumière va devenir de plus en plus ténue, et je vais finir par voir à travers. Voilà, absolument.
Oui, donc si on est nu, on n'a plus de quoi paraître, on n'a pas des habits à la mode bien coupés, au contraire, pas jolis.
Absolument, c'est la vraie quête de l'être, c'est ça qui nous rend heureux. C'est l'image aujourd'hui qui nous tue. Quand on vit avec quelqu'un qui vous dit « Tiens, je pensais pas que tu étais comme ça », ça veut dire que c'est que l'image qui l'intéresse et pas vous. Et quand vous allez montrer qui vous êtes et si on vous aime pas comme ça, bah c'est pas vous qu'on aime, c'est l'image. Donc faut laisser une photo puis partir, quoi.
Oui, mais en même temps, Patrick Burenstenas, on est comme les boutiques, les humains. On a une vitrine et c'est cette vitrine qui donne envie aux gens de rentrer dans la boutique. C'est ce que nous paraissons qui donne envie aux gens de nous, peut-être nous connaître. Au début, il faut bien qu'on présente quelque chose de peut-être un peu superficiel. Il y a bien une première couche.
Non, mais c'est nécessaire. Je veux dire, bien sûr qu'on est là dans le monde, on est dans une relation d'image, d'effet, mais il ne faut pas rester sur cette couche. Ouais, vous dites, effectivement, cette boutique est merveilleuse, mais vous finissez par rentrer dedans. Si c'est seulement la façade qui vous intéresse, vous restez dehors.
Ouais, c'est juste.
Il va falloir la franchir un moment. Oui, la première chose est attrayante. Ouais. Alors après, est-ce qu'on vend vraiment ce qu'on présente? Ça, c'est autre chose. Cette adéquation entre l'image et ce qu'on est en vrai. Mais...
on est dans la séduction, on ne s'en rend même pas compte.
Mais pourquoi ? Mais je veux dire que vous savez...
pour être aimé. Vous aviez parlé des peurs tout à l'heure.
J'ai bien compris, mais je veux dire que quand on vous voit tel que vous êtes beau.
Ah,
la vraie
tout
beauté
est dit.
Et pas du tout dans l'apparence.
On n'a pas besoin de cacher, au contraire,
mais
on peut montrer.
Pas. On a cette illusion en disant, imaginez, vous avez
tout
un cheval, c'est un percheron, et votre voisin, il a un pur sang. Et vous vous dites, qu'est-ce qu'il est beau ce cheval, je voudrais bien être comme ça. Et toute votre vie, vous vous déguisez en pur sang.
Alors que je suis un percheron.
Et que vous êtes un percheron. Et vous, votre travail, c'est de passer la herse. Vous avez l'air malin, vous, une fois que vous ressemblez à un pur sang. C'est toujours cette idée, si j'ai besoin de raison pour être heureux, je suis jamais heureux. Mais si je suis heureux sans raison, et c'est pas en cherchant des raisons illusoires, on va m'aimer parce que je vais avoir la tête de... Alors après... c'est toujours cette quête de l'âme sœur. On se dit, mais je vais aller dans le monde chercher une âme sœur. Mais on n'a pas besoin, on est tous des âmes sœurs. La seule différence, c'est ce que vous disiez, c'est qu'il faut franchir la porte de la boutique. Et si on est capable de la franchir, on reconnaît l'autre comme soi-même. D'ailleurs, on parle de l'univers, univers. Et cette idée de se rassembler vers quoi? Vers ce cœur, ce centre, cette unité. Et comment on va faire pour dépasser, quelle que soit la forme de la boutique, pour trouver le fameux point comme un qui est à l'intérieur?
Cette histoire d'unité, si quelqu'un est malheureux et qu'on lui dit, avec notre raison, en parlant à sa raison, tu as tout pour être heureux, tu es beau, tu as des beaux enfants, tu as un travail intéressant, tu as de quoi gagner ta vie, tu s'en fiches complètement.
Mais complètement, de la même manière qu'on dit à un enfant, finis ta soupe parce qu'il y a des gens qui meurent de faim dans le monde. Il s'en fout complètement, puis ça n'a rien à voir. Par contre, si on le rend heureux et qu'il a envie de le faire, à ce moment-là, la question ne se posera plus. La question se pose parce qu'on rentre dans un système, on rentre dans un schéma, on rentre dans une hiérarchie, on rentre dans un besoin. Amener des enfants visiter des ruines, ils s'en foutent complètement. Racontez-leur qu'on va à la chasse aux trolls à l'intérieur, mais on les arrête plus. Hein. On va faire exactement la même chose, hein. Mais ils vont être dans un état d'esprit différent et je vous garantis qu'ils vont avoir des trolls. Hein. Et ils vont avoir passé une journée en disant « Ah, c'était génial, quand est-ce qu'on y retourne ?»
Patrick Burenstenas, un alchimiste, raconte, et c'est édité chez Masso Éditions, et vous en dites des choses dans ce livre. Ce qui revient très très souvent, et nous allons en reparler, c'est ce fameux immobile, silencieux et aligné. Dansons.
Sur France Inter.
Patrick Burenstenas, vous avez écrit « Un alchimiste raconte », c'est chez Masso Éditions. Et vous en racontez des choses. Et quand vous parlez de ce monde de maintenant, vous dites qu'on est finalement gavé d'informations entre la télévision, le téléphone portable et d'autres choses, et que finalement on ne voit plus, parce qu'on voit trop de trucs. En fait.
Oui, et puis surtout on est un peu enfermé. D'ailleurs, les téléphones portables, ça s'appelle des cellulaires. Donc ça ne donne
pas
envie de s'en libérer. Et puis on communique à travers des écrans. Donc ça arrête forcément quelque chose. La télévision nous envoie des flots et des flots d'informations tellement puissants qu'on ne peut pas penser à autre chose. Donc c'est vrai qu'on a des informations complètement hétérogènes qui nous parlent souvent de choses qui ne nous concernent pas directement. On parlait tout à l'heure des stress, les trains qui s'écroulent à un endroit, les avions qui tombent. Les... on n'a pas le temps de récupérer. Où qu'on se tourne, on nous amène des catastrophes, on nous amène des stress, alors que ce monde est assez globalement beau quand même. Et c'est un peu dommage. Bon, c'est sûr que ça n'intéresse personne, on va dire, on ne va pas communiquer là-dessus, parce que si on dit aux gens « tout est merveilleux », ça ne va pas les intéresser. On a cette espèce de peur en nous qui fait qu'à chaque fois qu'on voit une catastrophe, on dit « c'est pas moi ». Vous savez, c'est quand on est sur le bord de la route et qu'on voit un accident, tous les gens freinent, s'arrêtent pour regarder ce qui se passe.
Ben, c'est intéressant. On veut savoir ce qui lui est arrivé.
Moi, je ne suis pas du tout sûr de ça. Mmh. Je pense que c'est plus un côté un peu morbide en disant « c'est pas moi ». Et plus les trucs horribles vont être horribles, plus moi, je me sens un peu gardé.
Comme
ça.
S'il y avait un quota d'accident, on se dit « si lui, là, moi, je ne l'aurais pas ».
Mais je pense qu'on peut dire ça. C'est tombé là, finalement, mmh. C'est pas moi qui l'ai eu. On a une espèce de peur, justement, presque une peur de vivre aujourd'hui. Bon, le monde ne s'arrange pas. Je veux dire, il fut un temps où on disait que la Terre était plate et que si on allait s'éloigner de chez nous, on allait tomber dans des gouffres, que les barbares étaient à nos portes. J'ai l'impression aujourd'hui que la Terre redevient plate.
Mmh. On nous dit exactement ouais.
La même chose. Les barbares sont à vos portes, il y a des gouffres si vous éloignez de chez vous. Donc on transpose exactement la même chose. Alors que moi, je reste absolument convaincu que ce monde est extraordinaire, que l'homme est bon. Et que bah, il suffit juste de le titiller un peu, d'être juste un peu optimiste pour. Et il suffit de rien. Je pense que l'homme a envie d'être heureux, finalement. Et qu'après, s'il se lamente sur lui-même et que notre vie devient le choix des contraintes, il faut se poser cette question. Le nombre de choses qu'on ne peut pas faire.
Patrick Burenstenas, on pourrait penser que vous êtes philosophe, vous l'êtes, mais ce n'est pas votre métier, que vous êtes psy, quelque chose, vous l'êtes, mais ce n'est pas votre métier, vous êtes un sage en tout cas. Et vous êtes alchimiste, c'est le titre de votre livre. Un alchimiste raconte chez Massot Éditions. Mais vous avez également fait, par exemple, un voyage initiatique. Vous racontez dans ce livre votre pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous ne l'avez pas fait pendant 15 jours, un été, vous l'avez fait pendant un an.
Oui, parce que moi, je pense qu'un pèlerinage, ce n'est pas une occupation. Et puis quand on part, on ne sait pas où on va et on ne sait pas combien de temps on va le faire. Tout ce que je dis n'engage que moi, hein. Mais celui qui dit « moi je vais faire 20 km par jour » et qu'il est fait, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout, il peut rester chez lui et faire ça sur un tapis roulant, finalement. Le but du pèlerinage, pour moi, c'est de perdre la notion du temps qui passe. C'est-à-dire que d'abord, on part comme ça. D'abord, on part avec un sac à dos qui contient toutes nos peurs.
Oh là, ça fait lourd, ça.
Et donc, il est énorme. Et très vite, on se rend compte que c'est nous qui portons. Et donc, on s'en débarrasse progressivement et on arrive dans le plus grand dépouillement. Et puis après, moi, quand ça m'a touché, je faisais effectivement un certain nombre de kilomètres par jour. Puis un moment, j'ai trouvé un lieu, je me suis assis et j'ai fait « waouh ». Et je pense que c'est là que le vrai pèlerinage a commencé. Perdre la notion du temps qui passe. C'était en Espagne, un endroit, c'était déjà assez loin, donc un endroit très particulier, où il y a un arbre qui ressemble à une pierre, il est minéral. Et devant, il y a des petits vieux assis. Et cet arbre s'appelle la porte du temps. Mais j'en avais pas la moindre idée, hein. Mais voir cet arbre qui était de pierre, ou qui était tellement figé, il bougeait sans doute, mais pas à la même vitesse que moi. J'ai l'impression que cet arbre m'a ralenti, il m'a arrêté. Et quand j'ai franchi ce pas, je marchais plus à la vitesse d'un homme, mais à la vitesse de l'arbre. Et là, j'ai commencé à voir des tas d'autres choses. Les choses que je pouvais pas voir parce que j'allais trop vite. Mais en allant lentement, j'allais moins loin, mais j'allais mieux. Cette idée fait qu'on arrive un moment à Noia, qui est le féminin de Noé quand même, et là il y a des tombes où il n'y a rien de marqué dessus, on marque son nom dessus. C'est incroyable, imaginez de marquer votre nom sur une tombe.
Vous êtes mort à vous-même. Hein.
Voilà, ça fait quand même un drôle d'effet, on a vraiment l'impression de se dépouiller, il faut le faire quand même, hein. On n'a pas envie de le faire. Hein. Et puis quand on le fait et qu'on prend du recul et qu'on dit « attends, c'est mon nom marqué ici, un jour je serai dessous ».
C'est marqué sur une pierre ?
On le grave à la main sur les pierres. Et après, on continue son pèlerinage, on ne s'arrête pas à Saint-Jacques, mais on continue jusqu'au bord d'un endroit qui s'appelle Fistera, et qui est la contraction de Finistera, l'endroit où la Terre se finit. Donc tout s'arrête à cet endroit-là. On est à l'ouest de l'ouest, et l'ouest, c'est l'endroit où on est occident. Donc c'est cette vraie mort. Et là, on voit le soleil qui tombe dans l'eau, et puis bah, on est là, après les étoiles apparaissent. Et pour nous, c'est une vraie dissolution. On a tué notre ego, on a tué la notion du temps qui passe, on n'a plus rien à perdre, c'est là qu'on peut trouver.
Donc il se passe vraiment quelque chose, parce qu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a la matière dont a besoin l'alchimiste sur la plage,
enfin, voilà.
Un petit peu plus loin que Saint-Jacques, vous dites.
C'est de l'antimoine, c'est un métal, un vrai métal.
Mais comment ça en trouve un métal sur la plage?
Oui, il y a sans doute des nodules polymétalliques qui sont recrachés par la mer, un volcan en mer par exemple, même très loin. Il y a des courants qui les roulent et qui les ramène sur la plage, mais à certaines périodes de l'année.
Et ça ressemble à un coquillage ou ça ressemble à quoi?
Ah non, pas du tout, pas du tout. On dit que tu prendras une matière que les autres rejettent comme du fumier, ça ressemble à des crottes de chien un peu. Mais allongé un peu, parce que ça a été roulé par la mer, et ça a la même couleur, hein. C'est le même granuleux.
Ouais.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand on le prend et qu'on le casse, il y a des étoiles dedans. C'est-à-dire que le métal est cristallisé de telle manière qu'il forme des étoiles. C'est ça ce compost stellaire aussi.
Et c'est ça l'antimoine.
Cet antimoine qui est un métal, c'est un début de quelque chose.
Donc finalement, ce voyage à Compostelle vous a transformé, vous, Patrick Burin-Stenaz, et vous a donné le début de votre travail d'alchimiste, donc le début de la transformation de la matière.
C'est ça, mais je ne savais pas que le plus important, elle était la transformation d'expérimentateur, de moi. Finalement, la matière, j'aurais pu la prendre ou l'acheter n'importe où. Hein. Ouais. Il y a des marchands de métaux partout, hein. J'aurais pu trouver cette matière. Et on peut dire que la matière, elle est secondaire, mais c'est moi qui ai fait le chemin pour la ramener. Et c'est moi qui l'ai portée sur le dos pour la ramener. J'aime mieux vous dire que...
C'est lourd.
Elle a, c'est lourd, mais surtout, elle a une immense valeur. C'est pour la qualité de celui qui l'a cherché. J'ai chargé ce métal de tous mes espoirs, de toutes mes peurs. C'était pas une volonté, il faut que ça soit dur, il faut que je souffre. Ça, 2000 ans de culpabilité, ça suffit, on a donné. Mais c'est juste dire, voilà, qu'est-ce que je suis capable de faire et qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour m'en rendre heureux. Et très vite, on se rend compte qu'on a besoin de rien. Il y a vraiment cette notion du passage, au sens littéral, le passage. On dit toujours, vous savez, c'est ce qui nous conduit vers la mort, puisqu'on trépasse. Trépasser, c'est passer trois fois, à condition qu'on ne trébuche pas. Trébucher aussi, c'est chuter trois fois. Ouais. Donc l'idée, c'est, et on chute sur le chemin, et c'est difficile ce chemin, mais on va acquérir, au sens littéral, c'est-à-dire à la quête de... Et on vit des moments tellement extraordinaires qu'on oublie tout ça, des moments qui ne sont pas dans le monde. Des choses, oui, on peut dormir en marchant, oui, on n'a plus de difficultés physiques, oui, on est ailleurs. Quoi. On est... C'est la première fois qu'on est ici en allant ailleurs.
Je pense que ça doit vous agacer à la longue qu'on vous dit ça. Vous avez l'air normal.
Non, ça ne m'agace pas du tout, au contraire. On imagine l'alchimiste avec un chapeau pointu, une grande barbe.
Oui, entre Dumbledore et Nicolas Flamel.
Voilà. C'est ça qui est justement intéressant.
Au départ, votre papa était métallurgiste, vous êtes venu quand même par la matière au départ, vous étiez physicien vous-même.
Oui, mais aussi une tendresse pour la matière, c'est-à-dire je me souviens que mon père était marchand de métaux, et je me souviens avoir joué dans des monceaux de soldats de plomb, des montagnes. Je me souviens avoir récupéré des vieux cadrans pour me faire le Nautilus. Donc c'était pas de la ferraille morte pour moi, c'était des histoires.
Ah oui.
D'où ça venait, quelle était l'histoire de ça, et surtout où ça me conduisait, donc... Je veux dire, j'avais pas besoin de console à l'époque, déjà ça n'existait pas, pour créer des autres univers. Ouais. Tout était là.
Alors vous racontez dans ce livre, Patrick Burin-Stenaz, un alchimiste raconte, c'est chez Massot Éditions, le travail de l'alchimiste, vous parlez du nom des métaux, vous dites des expériences qui sont étonnantes, que si on écrase un diamant transparent, ça m'est jamais arrivé d'abord, je n'oserais pas, tiens, prête-moi ta bague. N'empêche que si on écrase un diamant blanc transparent, on obtient une poudre noire.
Tout à fait, puisque la lumière se perd dedans. Et se perdant dans tous ces petits grains, elle ne ressort pas, et ne ressortant pas, ça fait noir. Et c'est pour ça que la seule manière de retrouver ce diamant blanc, ce serait de rassembler ces poudres et de l'aligner surtout. C'est la différence entre le charbon et le diamant. C'est du carbone pur, les deux. Alors pourquoi il y en a un qui est noir et mou, et l'autre, un des matériaux les plus durs de notre univers, est transparent? Ben justement, parce qu'il y en a un qui est chaotique et il y en a un qui est aligné. Et la seule différence entre ces deux matériaux, c'est pas la nature des matériaux, mais c'est la manière dont ils sont organisés.
Ah, l'expérience du carton de billes.
Exactement. Et c'est une expérience que vous pouvez faire vous-même. Vous prenez des billes que vous mettez dans un carton, vous les mettez en vrac, vous essayez de passer le point à l'intérieur, ça marche très bien. Ensuite, vous faites vibrer le carton. Et là, vous essayez de passer le point dedans, ça marche plus. Les billes se sont organisées dans un réseau cristallin et ça devient extrêmement dur. C'est la même chose que les sables mouvants. Le sable mouvant, c'est du sable en suspension. Et dès que vous bougez à l'intérieur, il s'organise et vous êtes pris à l'intérieur. C'est comme le béton vibré est plus dur que du béton pas vibré.
La matière recèle des merveilles.
Des merveilles.
Ouais. Parce que finalement, dans ce livre, donc, vous parlez d'alchimie, mais vous parlez de la vie, des hommes, du monde, des mystères, de notre monde, des autres mondes.
Oui, mais l'alchimie sans la vie n'existe pas. C'est pour moi un art de vivre, un art d'être, une philosophie. Et si on passait seulement sa vie dans son laboratoire pour chercher une pierre qui transmute le plomb en or, ça ne sert à rien, à personne. Si on n'est pas capable d'être heureux et de rayonner ensuite autour de soi, et de donner des outils sans que ce soit des dogmes, en disant, ben voilà, des choses extrêmement simples pour que vous soyez heureux, pourquoi pas le faire? Et même, ça fait partie de ça. Ça fait partie de, j'ai trouvé quelque chose, j'ai envie de le partager. Et c'est ça aussi qui est beau. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'alchimie, surtout par les temps qui courent, c'est que c'est un art qui s'est affranchi de toute culture, de toute religion, de tout sexe, de toute couleur, de tout pays. Les alchimistes du monde entier ont toujours travaillé ensemble.
Parce qu'il y en a dans le monde entier.
Absolument. Là, je parle que d'alchimie occidentale, mais il y a une alchimie chinoise extrêmement puissante, qui a beaucoup plus d'avance sur nous, une alchimie hindoue, indienne, africaine. Quand le sorcier africain, qui est le forgeron, est à l'extérieur et qu'il invoque les esprits pour pouvoir faire son métal, bien, on met de l'esprit dans chaque chose. J'ai rencontré quelqu'un qui forgeait des sabres au Japon. Lui, il parlait pas anglais, moi je parlais pas japonais. Il me donne les outils. Et la seule chose, il dit, prouve ce que tu sais faire. Et j'ai montré, c'était naturel pour moi. J'ai continué à travailler. Il m'a repris les outils, il a viré tout le monde et on s'est retrouvés tous les deux ensemble. On s'est reconnus comme de la même famille.
À propos de forgeron, j'ai cru tout ce qu'il y avait dans ce livre. Mais quand vous dites que vous avez fabriqué une épée en métal, solide comme du métal, mais transparente comme du verre, j'ai un petit doute.
Oui, pourquoi pas. J'aurais pu vous en amener, on est à la radio, ça se voit pas. Ouais. Mais on peut effectivement vitrifier un métal, c'est-à-dire le rendre transparent. À tel point, c'est que les vitraux sont faits comme ça.
À Chartres ?
Il en reste quelques-uns à Chartres, il y en a un peu dans le monde, parce qu'au fur et à mesure qu'on les remplace, on ne sait pas le faire, donc on remet des choses modernes. Mais un exemple que vous connaissez, et vous allez voir qu'on peut le prouver, c'est quand vous prenez du cristal. La différence entre le cristal et le verre, c'est qu'il y a du plomb dedans.
Dans le cristal ?
Oui, on met du plomb dans le verre et ça fait du cristal. Est-ce que vous le voyez, le plomb ?
Non.
Non, pourquoi ? Parce qu'il a bien été rendu transparent. Donc si c'est possible dans du cristal, avec un pourcentage de plomb, pas 100%, eh bien, ça doit être possible à 100%, et ça l'est.
D'accord. Alors, dernière chose, qui est assez subtile, vous n'êtes pas le seul à parler de ça, vous vous dites couder l'univers, d'autres parlent de pensée positive, Patrick Burin-Stenas, vous dites qu'il faut attendre quelque chose, mais en même temps, si on attend trop cette chose, on n'aura que cette chose. Alors, il faut attendre ou il ne faut pas attendre ? Il faut espérer ou il ne faut pas espérer ?
Non, je ne pense pas. Je pense que le philosophe cherche la perfection du moment présent. Ça veut dire qu'il prend tout ce qui passe, mais il le lâche quand ça le dépasse.
Vous avez le sens de la formule.
Voilà, le problème du désir, c'est désirer quelque chose, c'est se priver de tout le reste. Quand on désire quelque chose, on réserve la place pour l'accueillir. Mais si ça ne vient pas, il ne reste que le trou. Donc à force de désirer des choses qui ne viennent pas, on est plein de trous. Et c'est pour ça que les gens sont avides. Vous savez bien ce que ça veut dire. Donc à part, c'est comme les gens qui disent « moi j'ai pas de chance, je rencontre toujours les mêmes ». C'est normal parce qu'il libère toujours la même place. C'est comme la pièce du puzzle qui manque. Donc ça sera toujours la même pièce qui va venir. C'est pas de la faute de celui qui vient. C'est de la faute, si je puis dire, s'il y a faute.
De faute.
C'est de celui qui accueille. Donc cette idée, c'est de dire, au lieu qu'on se batte tous pour quelque chose, moi je vais prendre ce qui passe. Il en passe des choses, il en passe. L'idée, c'est un peu le chat qui a le nez dans un trou de souris, et les souris, elles courent derrière. Et à la fin de la journée, il va dire quel mauvais lieu pour chasser. Cette idée, c'est de dire, je désire rien, mais je goûte ce monde. Par contre, je suis attaché à rien. Être attaché à quelque chose, c'est horrible.
Attaché.
Attaché, c'est affreux. Même à quelqu'un, je veux dire, ça n'empêche pas l'amour. L'amour, c'est pas être attaché. Hein. C'est au contraire, c'est une fusion. Une fusion sans confusion. Alors que les émotions ont tendance à nous séparer, nous arracher. Donc, goûter ce monde à sa juste valeur, c'est forcément quelque chose d'extraordinaire. Et là, il y en a pour tout le monde.
Patrick Burin-Stenas, on vous écouterait pendant longtemps. On peut acheter votre livre, Un alchimiste raconte, c'est chez Massot Éditions.